La Société des Compagnons pour l'Évangile présente la Confession de foi de La Rochelle par le pasteur Pierre Courtial, cours pour laïcs donné par le Centre de formation chrétienne à la Faculté de théologie protestante de Paris.
Nous allons voir aujourd'hui les articles 16 à 24 de la Confession de foi qui forment un ensemble intitulé « L'œuvre du salut ». L'article 16, « Nous croyons que Dieu, en envoyant son Fils dans le monde, a voulu montrer son amour et son extrême bonté envers nous, en le livrant à la mort et en le ressuscitant pour accomplir toute justice et pour nous acquérir la vie éternelle. » Au centre de l'Écriture sainte, au centre du Nouveau Testament, on peut dire au centre de l'Évangile, il y a cette parole que nous connaissons tous par cœur: Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et au fond, l'article 16 de notre confession de foi montre que le sacrifice de Jésus-Christ, l'œuvre du salut accompli par Jésus-Christ, a son fondement, son origine dans l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui va être la source, la raison de notre salut. Dieu a envoyé son Fils dans le monde par amour. Et cet amour est allé jusqu'à livrer ce Fils à la mort. Cela pour que toute justice soit accomplie et que nous acquérions la vie céleste, ou l'on pourrait dire la vie éternelle. Je crois qu'ici nous devons nous arrêter pour répondre à une question qui a souvent été posée au long de l'histoire de l'Église et qui a été posée récemment par le psychologue Jung dans un ouvrage où il parle surtout de Job et dans lequel il dit que la mort du Christ, le fait que Dieu a livré le Christ à la mort, est quelque chose d'inacceptable et quelque chose de barbare. Et je pense qu'il y a dans la réaction d'un homme comme Jung, et ça a été la réaction de nombreux hommes au cours des siècles depuis la venue de Jésus-Christ sur la terre, je crois qu'il y a une méconnaissance de ce que dit la parole de Dieu, une méconnaissance de l'Évangile. En effet, si Jésus-Christ n'était qu'un homme, si Jésus-Christ n'était pas, comme l'affirme notre confession de foi à la suite de l'Écriture sainte, vraiment et réellement Dieu, il y aurait en effet quelque chose d'assez atroce dans le sacrifice qu'aurait fait Dieu d'un autre que lui-même. Mais justement, cet homme qui est mort sur la croix pour nous, et qui est allé jusqu'au bout du sacrifice humain, c'est Dieu lui-même, c'est Dieu devenu homme, c'est le Fils de Dieu incarné, le Fils de Dieu qui est un dans la Trinité avec le Père et le Saint-Esprit. Si bien que le sacrifice dont il est question dans la parole de Dieu, le sacrifice dont il est question dans l'Évangile, ce n'est pas, au bout du compte, un autre sacrifice que le sacrifice de Dieu. C'est Dieu qui s'offre en sacrifice. C'est Dieu qui s'est incarné, qui est devenu homme pour s'offrir lui-même en sacrifice. Et c'est Dieu qui nous manifeste son amour dans ce sacrifice qui est le sien. En effet, si Jésus-Christ n'est pas vraiment Dieu, Dieu offre alors en sacrifice un autre que lui-même. Et il y a dans cette substitution d'un autre à Dieu, non pas le témoignage et la manifestation de l'amour de Dieu, mais plutôt en effet le témoignage et la manifestation de la cruauté de Dieu. Et je pense que ce que beaucoup d'hommes étrangers à la foi chrétienne ou oublieux de la foi chrétienne, comme Jung, qui est fils de pasteur, c'est que la divinité de Jésus-Christ est oubliée. Jésus-Christ est le Fils éternel de Dieu. Et l'on peut dire littéralement que Dieu montre son amour en allant jusqu'à la mort. Et le sacrifice de Jésus-Christ, c'est bien entendu le sacrifice que subit et que souffre un homme porteur de la réalité humaine. Mais cet homme, c'est le Fils de Dieu incarné, c'est la parole faite chair, c'est Dieu lui-même. Nous croyons que par le sacrifice unique que le Seigneur Jésus a offert sur la croix, nous sommes réconciliés avec Dieu afin d'être tenus pour justes devant lui et considérés comme tels. Nous ne pouvons en effet lui être agréable et participer à son adoption que s'il nous pardonne nos fautes et les ensevelit. Nous affirmons donc que Jésus-Christ est notre intégrale et parfaite purification, qu'en sa mort nous avons une totale réparation pour nous acquitter de nos forfaits et des iniquités dont nous sommes coupables, et que nous ne pouvons être délivrés que par ce moyen. Je lâcherai le mot à mot et la lettre de cet article 17 et j'en esquisserai une synthèse dont je pense qu'elle est tout à fait fidèle au contenu de cet article. Et si j'emploierai d'autres expressions, c'est non pas pour nous écarter de ce qui est ici confessé, mais au contraire pour nous mettre davantage dans la réalité de ce qui est ici confessé. D'abord, il nous faut songer ce que nous ne faisons pas souvent, que le péché est une réalité tragique et une réalité mortelle. Dans un livre qui a été publié en français sous le titre « Traité du désespoir », mais qui est intitulé en danois « La maladie à la mort », Kierkegaard, au siècle dernier, a donné d'une manière particulièrement frappante parce que particulièrement originale, en même temps que tout à fait fidèle à l'Écriture sainte, un diagnostic du péché, un diagnostic de la maladie à la mort qu'est le péché. Nous oublions souvent que le péché, ce ne sont pas des péchés d'abord, mais quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus fondamental. Nous en avons déjà parlé en suivant la confession de foi, mais il faut non seulement nous en ressouvenir aujourd'hui, mais prendre cette réalité du péché avec un profond sérieux. Le péché est la maladie à la mort. Les maladies que soignent les médecins ne sont pas des maladies à la mort comme est le péché. Parce que les maladies que soignent les médecins, ce sont des maladies qui ne conduisent après tout, lorsqu'elles triomphent, qu'à la mort physique. Et nous n'avons pas tellement et d'abord à craindre ce qui tue le corps. Ce qui est grave, la vraie maladie, la maladie mortelle, la maladie dont aucun homme ne peut triompher, c'est le péché. Et il nous faut bien saisir ce que c'est que le péché, toute la révolte contre Dieu qui y est contenue, toute la ruine de l'homme qu'elle apporte, la séparation éternelle d'avec Dieu qu'elle entraîne, pour saisir ce qu'est venu accomplir Jésus-Christ sur la terre. On ne peut comprendre Jésus-Christ si l'on ne saisit cette maladie mortelle qu'est le péché. C'est à cause du péché que Jésus-Christ est venu dans le monde. C'est parce qu'il y a eu le péché que Dieu, dans son amour, s'est incarné et devenu homme, a souffert et est mort sur la croix. C'est à cause de notre péché que le sacrifice du Fils de Dieu a été nécessaire. Parmi les grandes œuvres de la foi chrétienne, il en est une qui a été écrite au Moyen Âge par Anselme de Cantorbéry et qui est intitulée Cur Deus Homo. Pourquoi le Dieu homme ? On pourrait traduire « Pourquoi Dieu s'est-il fait homme ?» Et Anselme, dans ce traité, est le premier des théologiens, des philosophes, des penseurs chrétiens à avoir attaqué cette question à la lumière de l'Écriture sainte et dans toute sa profondeur. Pourquoi Dieu est-il devenu homme? Pourquoi étant devenu homme est-il mort? Pourquoi devant mourir a-t-il choisi de mourir de la mort maudite de la croix? Et il y a deux réponses. Il y a cette réponse, c'est à cause de notre péché. Et il y a cette autre réponse. C'est à cause de l'amour de Dieu qui a voulu nous sauver de l'abîme mortel du péché. Et on ne peut vraiment saisir ce qu'est notre réconciliation avec Dieu par la mort du Christ que si l'on saisit bien cela. D'abord, voyons que l'Écriture sainte nous présente ce que Jésus-Christ est venu accomplir essentiellement comme une obéissance. Vous le savez, dans son chapitre 53, le prophète Ésaïe décrit le serviteur de l'Éternel. Le serviteur de l'Éternel, c'est-à-dire celui qui viendra obéir, répondre à la loi de Dieu. Et puisque nous sommes ici, malgré tout, pour faire un peu de théologie, je dirais que le service de Jésus-Christ, l'œuvre qu'est venu accomplir en tant qu'obéissance Jésus-Christ, nous sommes obligés d'en voir deux aspects. Il n'y a qu'une obéissance de Jésus-Christ, mais cette obéissance de Jésus-Christ a deux aspects. Ces deux aspects, les docteurs réformés les ont désignés sous ces mots un peu curieux à première vue, mais que je veux examiner avec vous, d'obéissance passive et d'obéissance active de Jésus-Christ. Je dis tout de suite, pour qu'il n'y ait pas de confusion, que lorsqu'il est question d'obéissance passive, cela ne désigne aucunement une passivité. D'ailleurs, puisqu'il s'agit d'obéissance, il s'agit forcément d'une activité. C'est Jésus lui-même qui a dit « Personne ne me prend la vie, mais je la donne de moi-même ». Donc, faisons attention, dans le mot « obéissance passive », il n'est question d'aucune passivité. D'autre part, il ne s'agit pas non plus, en distinguant obéissance passive et obéissance active, de périodes de la vie du Christ, comme si le Christ avait été tout le long de sa vie dans l'obéissance active et comme s'il était entré dans l'obéissance passive au moment de ses souffrances et de sa mort. Non, mais il s'agit de deux aspects de l'obéissance correspondant à deux aspects de la loi de Dieu. À l'origine, quand Dieu a créé l'homme, il a donné à l'homme cette loi qui est fondamentale, qui est créationnelle, qui est la loi même de l'homme dans la vérité de son être. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Même si Jésus-Christ a donné ses commandements comme sommaire de la loi, même si nous trouvons déjà cependant ses commandements dans l'Ancien Testament, ces commandements, au fond, remontent à la création même de l'homme. L'homme n'a de réalité humaine, n'est vraiment homme dans la réalité de son humanité, selon la loi de Dieu, que s'il aime Dieu et son prochain. Qu'est-ce qu'un homme ? C'est la créature que Dieu a faite pour aimer Dieu et son prochain. Être un homme, vraiment un homme, c'est aimer Dieu et son prochain. Et je dirais que Jésus-Christ, dans son obéissance active, a été l'homme qui, à la place de tous les hommes, a vraiment aimé Dieu de tout son cœur et son prochain comme soi-même. Dans la réalité de son humanité, Jésus-Christ a été le vrai homme aimant Dieu et son prochain. Et c'est cela, l'obéissance active de Jésus-Christ. C'est l'obéissance de Jésus-Christ à la loi de Dieu en tant que la loi de Dieu, c'est l'ordre de Dieu pour l'homme, le commandement de Dieu pour l'homme, la règle de Dieu pour l'homme. Seulement, comme l'homme a désobéi à la loi de Dieu, comme l'homme s'est révolté contre la loi de Dieu, comme l'homme n'aime pas Dieu de tout son cœur et son prochain comme lui-même, alors la loi se venge, c'est forcé. Quand nous ne tenons pas compte d'une loi, cette loi, si j'ose dire, nous retombe dessus. C'est vrai dans tous les domaines. Et c'est particulièrement vrai dans le domaine de la vie spirituelle. l'homme n'aime pas Dieu et son prochain, eh bien, la loi va se retourner en loi de mort contre l'homme. Ce sera la mort spirituelle de l'homme. L'obéissance à la loi de Dieu, c'est la vie de l'homme. Et la désobéissance à la loi de Dieu, c'est la mort de l'homme. Et la désobéissance entraîne la condamnation et la mort. Eh bien, l'obéissance passive de Jésus-Christ, c'est d'avoir pris notre place sous la condamnation et sous la mort. Et cela, Jésus-Christ l'a commencé dès qu'il est venu et tout au long de sa vie et dans ses souffrances et dans sa mort. On peut dire que toute l'œuvre de Jésus-Christ sur la terre est une œuvre d'obéissance active, en ce sens que Jésus-Christ a parfaitement obéi à la loi de Dieu, aime Dieu et ton prochain, et que toute la vie de Jésus-Christ a été obéissance passive, en ce sens que Jésus-Christ a pris sur lui la mort, la condamnation qui nous revenait. Et il est très très important de ne pas oublier cela. Car, j'attire votre attention là-dessus, l'amour ne peut jamais se manifester, et je dirais même n'a jamais le droit de se manifester au détriment de la justice. Et quand nous parlons de la grâce de Dieu, nous ne pouvons en parler qu'en parlant d'abord de la loi de Dieu. La loi de Dieu est première en ce sens que Dieu a créé l'homme et l'humanité avec une loi qui était la loi de l'homme et de l'humanité, laquelle loi, je le répète, était la loi d'amour de Dieu et du prochain. Et rien à faire, il faut que la loi soit accomplie. Et qu'elle soit accomplie dans deux sens à cause du péché de l'homme. Qu'elle soit accomplie en ce sens qu'il faut que l'humanité obéisse parfaitement à la loi de Dieu. Et comme l'humanité avait désobéi à la loi de Dieu, il faut que l'humanité subisse le contre-coup de la loi et connaisse pleinement la mort et la séparation d'avec Dieu. Eh bien, Jésus-Christ n'est venu porteur de la grâce de Dieu pour nous, que parce qu'il a préalablement porté la loi de Dieu pour nous. Il n'y a pas de grâce si d'abord justice n'est pas faite. La charité et l'amour de Dieu sont une réalité, mais ne peuvent jamais l'être au détriment de la justice. Et ça, la Bible le dit, les confessions de foi de la Réforme le répètent, et nous devons le savoir et le croire. La loi est première. Cela peut sembler étonnant, parce que généralement on dit le contraire. On dit généralement que la grâce est première. Non, la grâce n'est pas première, c'est la loi qui est première. Et s'il y a grâce, c'est parce que la loi a d'abord été accomplie. Et la loi a été accomplie à cause de l'obéissance active et de l'obéissance passive de Jésus-Christ. La loi a été accomplie parce que Jésus-Christ a pleinement accompli la loi, aussi bien dans son sens de norme et de commandement que dans son sens de jugement et de condamnation. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oui, il ôte le péché du monde. Mais il n'ôte le péché du monde que parce qu'il obéit parfaitement à la loi de Dieu et qu'il subit parfaitement la condamnation de la loi de Dieu. Et il y a l'obéissance de Jésus-Christ au fondement même de la grâce. Il y a la justice accomplie pour permettre l'éclatement de la grâce et de la miséricorde. Seulement, ce ne sont pas les hommes qui ont fait cela. C'est Dieu en s'incarnant. C'est le Fils de Dieu en vivant sur la terre comme un homme et en mourant dans la plénitude de son obéissance active et passive. Je pense que ces réflexions théologiques ne vous paraissent quand même pas par trop rébarbatives, je dirais que lorsqu'on médite cela, non pas avec sa seule intelligence, mais avec son cœur, alors on comprend ce qu'a coûté la grâce. Parce qu'on dit souvent que la grâce est gratuite, mais c'est pour nous qu'elle est gratuite. Mais à Dieu, elle a coûté les souffrances et la mort de son Fils. Pour Dieu, la grâce n'est pas gratuite, mais elle jaillit de l'accomplissement de la justice. Elle jaillit de l'accomplissement de la loi. Et il fallait que la loi, puisqu'elle était la loi pour l'homme, soit accomplie dans l'obéissance active par l'homme qui est Jésus-Christ. Et en ce qui concerne l'obéissance passive subie par l'homme qui est Jésus-Christ. Et c'est pourquoi Dieu s'est fait homme. Cur Deus homo, pourquoi le Dieu homme, demande saint Anselme, et saint Anselme y répond en étant le premier grand théologien chrétien à avoir développé et approfondi cette doctrine biblique que je viens de rappeler et qui est la doctrine de l'expiation. Et c'est pourquoi, après saint Augustin et avant Calvin, Anselme est le plus grand des théologiens chrétiens. Il y a trois très grands théologiens chrétiens, Augustin, Anselme et Calvin, et l'on s'aperçoit qu'Anselme n'existe que posé sur Augustin et que Calvin n'existe que posé sur Anselme et Augustin. Il y a une continuité entre ces trois hommes qui ont voulu maintenir l'enseignement de l'Écriture sainte en ce qui concerne l'œuvre de Dieu et le salut que Dieu est venu accomplir. Et nous arrivons à l'article 18. Nous croyons que toute notre justice est fondée sur la rémission de nos péchés et que notre seul vrai bonheur se trouve dans ce pardon, comme le dit David. C'est pourquoi nous rejetons tous les autres moyens par lesquels nous penserions pouvoir nous justifier devant Dieu. Et sans présumer d'aucune vertu ni d'aucun mérite, nous nous en tenons uniquement à l'obéissance de Jésus-Christ, qui nous est attribuée aussi bien pour couvrir toutes nos fautes que pour nous faire trouver grâce et faveur devant Dieu. Je dirais que le contenu de cet article 18 va de soi quand on a compris l'article 17. Il est bien évident que si Dieu s'est fait homme pour accomplir toute justice et faire jaillir la grâce de Dieu, alors il est, j'allais dire, stupide de vouloir chercher son salut ailleurs. Il n'y a de salut qu'en Jésus-Christ et qu'en Jésus-Christ seul, parce que Jésus-Christ et Jésus-Christ seul a accompli pour nous toute justice, au double sens du mot justice dont j'ai parlé tout à l'heure, et que c'est à cause de la croix que la miséricorde de Dieu et le pardon de Dieu peuvent jaillir, fondés sur la justice de Dieu et non pas dans le dénigrement ou l'écroulement de cette justice. En fait, nous croyons qu'en nous écartant si peu que ce soit de ce fondement, l'obéissance de Jésus-Christ, nous ne pourrions trouver ailleurs aucun repos, mais que nous serions toujours rongés par l'inquiétude, puisque pris en nous-mêmes, nous sommes dignes d'être haïs par Dieu et que nous ne serons jamais en paix avec lui jusqu'à ce que nous soyons fermement convaincus d'en être aimés en Jésus-Christ. Il y a un mot qui peut sembler fort, nous sommes dignes d'être haïs par Dieu. Et cependant, ce mot n'est pas fort. Heureusement que Dieu est amour, mais en nous-mêmes, nous sommes seulement dignes d'être haïs. Dieu nous aime, mais ce n'est pas qu'il y ait en nous quelque chose d'aimable, quelque chose qui soit digne d'être aimé. Mais c'est parce que Dieu a donné son Fils. Qu'en ce Fils, Dieu nous aime, et cela par pure grâce, cette grâce qui, gratuite pour nous, a coûté la vie du Fils de Dieu. Et ensuite, à première vue curieusement, mais nous allons le voir d'une manière qui se tient très bien, la confession de foi passe à la prière. Nous croyons que c'est par ce moyen que nous avons la liberté et le privilège d'invoquer Dieu avec la pleine confiance qu'il se montrera notre Père, car nous n'aurions pas le moindre accès au Père si nous n'étions introduits auprès de lui par ce médiateur. Pour être exaucé en son nom, il convient de recevoir notre vie de Jésus-Christ comme de notre chef. Le premier chef de l'humanité, nous le savons par l'Écriture sainte, c'est Adam. Et nous savons aussi par l'Écriture sainte que c'est ce premier chef, Adam, qui a entraîné avec lui toute l'humanité dans la maladie mortelle du péché. Alors, Dieu, dans son amour, donne un nouveau chef à l'humanité. Et ce nouveau chef, c'est Jésus-Christ. Et c'est de Jésus-Christ que nous recevons notre vie. Il y a notre vie ancienne, celle qui vient d'Adam, et il y a la vie nouvelle, celle qui vient de Jésus-Christ. Et le chrétien, c'est celui dans lequel la vie ancienne d'Adam ne commande plus, encore qu'elle subsiste encore jusqu'à notre mort, et dans lequel la vie nouvelle de Jésus-Christ commence à dominer et à régner, même si elle ne triomphe pas totalement en nous avant notre mort. Il y a ce nouvel Adam, ce second Adam dont parle saint Paul au chapitre 5 de la lettre aux Romains, et c'est en ce nouveau chef, en ce nouvel Adam, Jésus-Christ, que nous recevons la vie. Pourquoi la prière ? Pourquoi ici, à cet endroit, la prière ? Parce que la prière, c'est le commencement de la mendicité, au sens où Jésus a dit « Heureux les mendiants de l'esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Qu'est-ce qu'une vraie prière ? C'est quand un homme commence à se savoir perdu. Et quand il commence à se tourner vers celui la seule qui peut le sauver. Et c'est pourquoi la prière vient ici, dans la confession de foi. La prière, c'est la main tendue. La prière, c'est la main qui demande. Souvent, on dit que c'est dommage que dans la prière, une telle place soit faite à la demande. Je suis toujours un peu étonné qu'on puisse dire ça, parce que dans le modèle de prière que Jésus nous a donné, tout est demande. Mais il y a demande et demande. Il y a la demande qui est la demande païenne. La demande païenne voulant tourner la volonté de Dieu à notre volonté. Et puis, il y a la demande de la prière chrétienne, qui ne vise pas à tourner la volonté de Dieu à notre volonté, mais à tourner notre volonté à la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi il y a deux sortes de prières. Il y aura toujours deux sortes de prières. La prière où notre volonté passe avant la volonté de Dieu et où nous espérons par je ne sais quelle magie arranger la volonté de Dieu à notre volonté. Et puis il y a la vraie prière qui n'est pas faite pour changer quelque chose en Dieu, en ce sens que, comme Jésus le dit justement dans le sermon sur la montagne, Dieu sait ce dont nous avons besoin avant même que nous le demandions. Mais la prière est faite pour nous. Si Dieu nous donne, demande de prier, c'est parce que la prière est un moyen de grâce. C'est parce que la prière, c'est le commencement de l'œuvre de Dieu en nous. C'est parce que lorsqu'un homme se met à demander comme un mendiant la grâce de Dieu, c'est qu'il commence déjà à avoir reçu cette grâce. C'est d'une autre manière la parole de Pascal, « Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais déjà trouvé. » Et c'est pourquoi la prière est indiquée là. Et la prière, c'est savoir aussi qu'elle ne peut s'appuyer que sur la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, elle ne peut s'appuyer que sur la justice accomplie par Jésus-Christ. Et c'est pourquoi toute prière doit être au nom de Jésus-Christ, non pas dans les mots au nom de Jésus-Christ, parce qu'on peut très bien prier au nom de Jésus-Christ sans dire au nom de Jésus-Christ, et on peut très bien dire au nom de Jésus-Christ sans prier au nom de Jésus-Christ. Mais toute vraie prière chrétienne est au nom de Jésus-Christ, parce que c'est une prière qui s'appuie sur l'œuvre de Jésus-Christ, sur le sacrifice de Jésus-Christ, sur l'intercession de Jésus-Christ, sur la médiation de Jésus-Christ, sur ce que Jésus-Christ est venu accomplir pour nous. Et nous nous appuyons sur la prière de Jésus-Christ. Et nous avons cette liberté et ce privilège de dire à Dieu notre Père. Il y a des gens qui pensent que, mais quand je dis des gens, c'est nous-mêmes dans nos tentations. Il y a des gens qui pensent que quand nous disons à Dieu notre Père, nous parlons à Dieu comme si nous avions le droit de lui dire notre Père. Mais c'est une grâce que nous qui sommes ennemis de Dieu, nous puissions dire à Dieu notre Père. C'est une grâce de Dieu que nous puissions l'appeler notre Père. En un sens, il n'est pas notre Père. C'est ce que Jésus disait aux Juifs. Les Juifs, Jésus leur disait, « Votre Père, c'est le diable. » Oui, notre Père, c'est le diable. Je veux dire, celui que nous devrions appeler notre Père, c'est le diable. Puisque c'est la volonté de celui-là que nous voulons tellement souvent faire. Puisque c'est dans le sens de ce que nous souffle celui-là, que nous voulons si souvent aller. Mais c'est une grâce de dire à Dieu, au vrai Dieu, notre Père, et nous ne pouvons lui dire notre Père que parce qu'il nous reçoit comme ses enfants d'adoption à cause de l'amour dont il nous a aimés en son Fils unique. C'est le Fils unique parce que c'est le seul Fils par nature. Il a la même nature divine que le Père. Il est le Fils unique du Père parce qu'il est le seul à avoir la même nature que le Père. Mais il a pris notre nature humaine, cur Deus homo, il a pris notre nature humaine pour devenir notre frère et pour que nous puissions, dans l'adoption de la grâce, dire à Dieu notre Père. Nous croyons que Dieu nous fait participer à cette justice par la foi seule, puisqu'il est dit que Jésus-Christ a souffert pour obtenir notre salut, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Nous croyons que nous participons à la justice de Jésus-Christ, parce que les promesses de vie qui nous sont données en lui sont adaptées à notre usage, et que nous en sentons l'effet quand nous les acceptons. car nous sommes convaincus, la bouche même de Dieu nous en donnant la forme et l'assurance, que nous ne serons pas frustrés de ce qu'elles promettent. Ainsi, la justice que nous obtenons par la foi dépend des promesses gratuites par lesquelles Dieu nous déclare et nous atteste qu'il nous aime. La foi, c'est la main qui saisit les promesses de Dieu. La foi, c'est cette main tendue dans la prière qui reçoit ce que Dieu a fait et donne. Et c'est pourquoi la prière et la foi vont ensemble, ou que la foi et que la prière vont ensemble. On ne peut séparer prière et foi. Toute foi est prière. Toute prière vraie est foi. Cela va ensemble. C'est la main tendue qui reçoit. Il n'y a là aucune prétention, car si nous recevons, nous le verrons dans l'article suivant, c'est par la grâce secrète du Saint-Esprit. Mais c'est ça la foi, et c'est ça la prière. C'est la main qui reçoit. Quand nous recevons, nous avons foi et prière. Dieu nous donne et nous recevons. Oui, nous croyons que nous recevons la lumière de la foi par la grâce secrète du Saint-Esprit, de telle manière qu'elle est un don gratuit et personnel que Dieu dispense à ceux que bon lui semble. Les fidèles n'ont donc pas de quoi s'en glorifier, le fait d'avoir été préférés aux autres les obligeant bien davantage. Cet article, qui a un aspect quelque peu déroutant, surtout pour notre mentalité moderne, est un article qui met bien le doigt sur l'essentiel. Je ferai une image. Imaginez un immense amphithéâtre avec tout autour des tas de portes qui sont tous les chemins personnels que peuvent suivre et par lesquels peuvent passer les hommes. Et puis, appelant les hommes, dresser au centre de cet amphithéâtre la croix de Jésus-Christ, le sacrifice de Jésus-Christ. Et puis, sur le mur de cet amphithéâtre, tout autour, des voix qui nous appellent et qui nous invitent. Ce sont les voix des prophètes et des apôtres, et ce sont aussi les voix de tous les témoins de Dieu, de tous les chrétiens fidèles qui appellent à entrer et invitent à entrer. Et puis voilà les hommes en dehors et qui sont là, les uns vacants à leurs occupations sans faire attention aux appels qui retentissent, les autres tout à coup prêtant attention à cet appel. Mais les uns le rejettent après l'avoir entendu, et puis les autres écoutent cet appel et ils entrent. Et ils se trouvent là, dans le lieu du salut. Ils se trouvent là, dans l'Église. Ils se trouvent là, au pied du sacrifice rédempteur de Jésus-Christ. Et quand ils se retournent et qu'ils regardent vers le mur intérieur, ils s'aperçoivent curieusement d'une chose. Il leur est affirmé là, si tu es entré, cela ne vient pas de toi, c'est le don de Dieu. Ou il leur est affirmé, c'est ma grâce qui a tout fait. Et si tu es là, c'est malgré toi. Si tu es là, c'est parce qu'il a semblé bon à Dieu que tu viennes. Si bien que l'on ne peut parler de l'élection, et l'on ne peut parler de la prédestination qu'une fois qu'on est dedans, en Jésus-Christ, dans l'Église. Mais à tous ceux du dehors, l'invitation est faite. Pour tous ceux du dehors, l'offre est présentée. Pour tous ceux du dehors, sans exception, l'invitation est criée. Et ceux qui refusent l'invitation ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes, car l'invitation les appelle. Et Dieu leur offre vraiment Jésus-Christ et la grâce. Et puis, ceux qui répondent à l'invitation, une fois qu'ils sont là-dedans, ne peuvent même pas dire, tiens, si j'ai répondu à l'invitation, c'est que je suis peut-être un peu meilleur que les autres, ou bien c'est parce que moi, à la différence des autres, hein, j'ai eu la foi, je suis un type bien ou je suis un type mieux. Non, il y a sur le mur intérieur, tout est grâce, et si tu es là, c'est à cause de moi et par moi. Et c'est le Saint-Esprit qui dit ça, ou Jésus-Christ, ou le Père, peu importe, c'est Dieu, en tout cas. Et c'est pourquoi ce petit article sur le don de la foi est important. Et les fidèles n'ont pas de quoi se vanter, parce que cette foi désormais les oblige, plus que les autres, et il sera plus demandé à ceux qui ont plus reçu. Et ceux qui sont là maintenant, entrés dans le grand jeu de l'amphithéâtre, ont une partie difficile et magnifique à jouer. Et s'ils sont là, c'est pas pour regarder en spectateur, mais c'est pour se trouver livrés à un combat qui ne cessera qu'avec la mort. Combat, le bon combat de la foi. Nous croyons aussi que la foi n'est pas seulement donnée d'une manière temporaire aux élus pour les introduire dans le bon chemin, mais pour les y faire aussi persévérer jusqu'au terme de leur vie. Car puisque le commencement de cette œuvre de grâce incombe à Dieu, c'est aussi à lui de la parachever. Faisons bien attention. Il est bien dit que le commencement de cette œuvre de grâce incombe à Dieu, comme c'est Dieu qui y fait persévérer et comme c'est Dieu qui parachève. Mais il faut aussi souligner pour les y faire persévérer. C'est-à-dire que le combat dont je viens de parler est un vrai combat. Et c'est un combat qui doit aller, s'il le faut, jusqu'au sang contre le diable et le péché et la mort. Mais c'est un combat dont Dieu, en Jésus-Christ, est l'initiateur, dont il est le continuateur et dont il est l'acheveur. Et c'est Dieu qui est l'alpha et l'oméga et qui est tout au long. Et c'est pourquoi le chrétien ne peut à aucun moment de son combat désespérer. Même si à certains moments le combat lui paraît impossible. Même si à un moment il est sur le point de flancher. Même si à un moment il tombe. Même si à un moment il est comme blessé ou comme évanoui. Non, nous sommes dans un mouvement que Dieu a inauguré, dans lequel Dieu nous donne de persévérer et dans lequel Dieu finalement parachèvera le tout en nous faisant triompher. Étant asservis au péché de par notre nature corrompue, nous croyons que c'est par cette foi que nous sommes régénérés afin que nous vivions d'une vie nouvelle. En effet, c'est en nous appropriant la promesse qui nous est faite par l'Évangile, à savoir que Dieu nous donnera son Saint-Esprit, que nous recevons par la foi la grâce de vivre saintement et dans la crainte de Dieu. Ainsi, la foi non seulement ne refroidit pas en nous le désir de bien et saintement vivre, mais au contraire, l'engendre, l'excite et produit nécessairement les bonnes œuvres. Au reste, bien que Dieu, pour accomplir notre salut, nous régénère et nous rende capables de faire le bien, nous confessons toutefois que les bonnes œuvres que nous faisons sous la conduite de son esprit ne viennent point en compte pour nous justifier ou pour mériter que Dieu nous tienne pour ses enfants, parce que nous serions toujours ballottés par le doute et l'inquiétude si nos consciences ne s'appuyaient sur la réparation par laquelle Jésus-Christ nous a acquittés. Il y a dans la vie chrétienne deux aspects. L'aspect de la justification et l'aspect de la sanctification. Ou si l'on veut, l'aspect du pardon et l'aspect de la vie nouvelle. Et le chrétien, c'est un homme qui reçoit le pardon, auquel Dieu pardonne son iniquité, mais c'est aussi un homme que Dieu change. C'est aussi un homme qui qui va commencer à vivre d'une vie nouvelle. C'est un homme qui est appelé à aller de progrès en progrès, de combat en combat, car nous recevons par la grâce non seulement de recevoir notre pardon, mais de vivre saintement. Et les deux aspects, justification et sanctification, pardon et vie nouvelle, sont deux aspects qui vont ensemble. Mais la sanctification dérive de la justification, la vie nouvelle dérive du pardon, ou pour l'exprimer autrement, les œuvres bonnes, si elles sont vraiment bonnes, dérivent de la foi. Et c'est la foi qui engendre, excite et produit les œuvres bonnes. Nous pourrions dire d'une autre façon que si nous sommes justifiés par la foi sans les œuvres, nous sommes sanctifiés dans les œuvres que produit la foi. Et finalement, notre salut, s'il n'est pas un salut par les œuvres, puisqu'il est le salut par la seule œuvre de Jésus-Christ, c'est un salut qui provoque, qui insinue, qui insère en nous des œuvres bonnes. Bien sûr, ça n'est jamais ici-bas qu'un commencement de vie nouvelle, car la vraie vie nouvelle, nous ne la connaîtrons qu'après notre mort et encore davantage qu'après notre résurrection. Mais c'est cependant un vrai commencement. C'est un vrai commencement qui doit se fortifier au long des années. C'est un commencement. Ce qui fait que nous sommes toujours obligés de demander pardon et de confesser nos péchés, et cela jusqu'à notre mort. Nous ne pourrons jamais nous justifier ni mériter que Dieu nous tienne pour ses enfants. D'ailleurs, sans cela, nous serions toujours ballottés par le doute et l'inquiétude. Mais nous appuyant sur le salut que Jésus-Christ a accompli, nous commençons à faire quelque bien, à obéir au commandement de Dieu, non plus pour nous justifier, mais pour rendre grâce et remercier. Nous croyons qu'en la venue de Jésus-Christ, toutes les images et représentations de la loi ont pris fin. Cependant, quoique les cérémonies de l'Ancien Testament ne soient plus en usage, nous croyons que nous trouvons la personne du Christ en qui toutes choses ont été accomplies, la réalité de ce qu'elle représentait et signifiait. Au surplus, nous croyons qu'il faut nous aider de la loi et des prophètes, tant pour régler notre vie que pour être confirmés dans les promesses de l'Évangile. Nous rédigerions cela autrement aujourd'hui parce que ce qui est appelé ici la loi et les prophètes, c'est simplement l'Ancien Testament. Avec Jésus-Christ, tous les sacrifices de l'Ancien Testament ont pris fin. Et c'est pourquoi le sang n'est plus versé, c'est pourquoi il n'y a plus de circoncision, c'est pour ça qu'il n'y a plus d'agneau pascal. Le baptême et la Sainte Cène, qui sont des sacrements non sanglants, viennent replacer devant nous et nous faire revivre le sacrifice unique et parfait offert une fois pour toutes sur la croix par Jésus-Christ. Et cependant, l'Ancien Testament peut nous aider parce qu'il y est contenu beaucoup de commandements de Dieu qui subsistent, encore que certains commandements de Dieu dans l'Ancien Testament soient tombés. Par exemple, il y avait tous les commandements sacrificiels, tous les commandements cérémoniels de l'Ancien Testament qui sont tombés. Et puis, il ne faut pas oublier qu'Israël était une théocratie. Et il y a aussi un certain nombre de commandements civils et pénaux de l'Ancien Testament qui se rapportaient au peuple théocratique de l'Ancien Testament et qui sont tombés avec la venue de Jésus-Christ. Mais il reste les commandements moraux de l'Ancien Testament, lesquels commandements moraux n'ont pas été abrogés, mais au contraire ont été fortifiés et approfondis par Jésus-Christ. Je prends deux exemples. Il est dit dans l'Ancien Testament, tu ne commettras pas d'adultère, et Jésus-Christ montre que dans ce commandement est compris l'interdiction même de jeter sur une femme un regard de convoitise. Je prends aussi cet autre commandement, il est dit dans l'Ancien Testament, tu ne tueras pas. Et Jésus-Christ montre dans le Nouveau Testament que ce commandement ne signifie pas seulement qu'il ne faut pas tuer, mais qu'il ne faut pas même se mettre en colère contre son frère. Donc les commandements de l'Ancien Testament restent, demeurent pour le chrétien, encore qu'il faille les prendre avec plus de précision et avec plus de profondeur. Et c'est ainsi que l'Ancien Testament nous aide pour être confirmés dans les promesses de l'Évangile, aussi en ce sens que nous voyons dans, au long de l'Ancien Testament les promesses faites par Dieu et qui sont successivement accomplies. Je pense par exemple surtout à la triple promesse faite par Dieu à Abraham de lui donner un peuple dans sa descendance, de donner ensuite un pays à ce peuple et un jour de faire jaillir dans ce peuple et dans ce pays une source de bénédiction pour toutes les nations de la terre. Alors nous voyons la première promesse, celle du peuple qui est accomplie avec Moïse. Nous voyons la seconde promesse, celle de la terre qui est accomplie avec David à la fin de tous les combats des juges et des premiers rois. Et puis nous voyons finalement la dernière promesse, celle de la source de bénédiction dans ce peuple et sur cette terre, être accompli en Jésus-Christ. Eh bien, le fait que Dieu ait tellement tenu ses promesses dans l'Ancien Testament et que nous vérifions en quelque sorte par l'histoire de l'Ancien Testament et par le Nouveau Testament la vérité et des promesses de Dieu et la fidélité de Dieu à ses promesses, alors à combien plus forte raison pouvons-nous compter sur les promesses de Dieu concernant par exemple la venue en gloire de Jésus-Christ, la résurrection des morts et la transfiguration de l'univers, de même que Dieu a tenu toutes les promesses qu'il avait faites dans l'Ancien Testament, combien à plus forte raison tiendra-t-il celles qu'il nous fait dans le Nouveau. Et nous arrivons au dernier article d'aujourd'hui. Puisque Jésus-Christ nous a été donné pour seul avocat et nous a ordonné de nous adresser directement à son Père en son nom, et puisqu'il ne nous est permis de prier qu'en nous conformant à la manière que Dieu nous a prescrite dans sa parole, nous croyons que tout ce que les hommes ont inventé quant à l'intercession des saints trépassés n'est qu'abus et ruse de Satan pour les détourner de la manière de bien prier. Nous rejetons aussi tous les autres moyens que les hommes présument avoir pour se racheter envers Dieu parce qu'ils discréditent le sacrifice de la mort et de la passion de Jésus-Christ. Enfin, nous considérons le purgatoire comme une erreur provenant de cette même boutique d'où découlent aussi les vœux monastiques, les pèlerinages, l'interdiction de se marier ou de consommer certains aliments, l'observation cérémonieuse des jours, la confession auriculaire, les indulgences et toutes choses semblables par lesquelles on pense mériter la grâce et le salut. Toutes ces choses, nous les rejetons non seulement à cause de l'idée mensongère de mérite qui y est attachée, mais aussi parce qu'elles sont des inventions humaines qui imposent un joug aux consciences des hommes. Je ne fais que lire ce texte. Je crois qu'il correspond très exactement à une situation historique qui était celle du XVIe siècle. Je crois que aujourd'hui, nous ne pourrions peut-être pas dire les choses exactement de la même manière. Il ne faut pas oublier, encore que bien des choses qui sont là, nous pourrions très exactement les redire. Mais je veux dire, nous ne les redirions sans doute pas de la même manière, parce que, d'une part, il y a quelque chose de très polémique. Je dirais que le mot « boutique » en notre époque risquerait non pas de maintenir davantage la foi évangélique, mais d'empêcher des dialogues écuméniques qui m'apparaissent comme nécessaires, aussi strictement réformés que je puisse être. Et je crois que, si vous voulez, nous pouvons en effet lire cet article, mais on voit très bien, rien que dans la façon aussi dont il vient à la fin de cet ensemble sur l'œuvre du salut, je dirais que c'est plutôt un appendice, je dirais que c'est plutôt une note en marge, c'est plutôt quelque chose en plus pour rappeler à un certain nombre d'évangéliques, faites attention, puisque vous savez quelle est l'œuvre de salut accomplie par Jésus-Christ, puisque vous savez que notre salut est l'œuvre de la grâce, ne retombez pas dans les histoires de mérite, d'indulgence, de purgatoire et toutes choses semblables, gardez-vous dans la fidélité à Jésus-Christ qui est le seul avocat, le seul médiateur et le seul sauveur.